Alors là, il y a quand même, si on regarde de près, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a des petits manques qui subsistent dans les ailes d'oiseaux, dans le cabet, tout ça. On n'a pas restauré comme des malades, on a laissé quelques petites imperfections, parce qu'on ne peut pas supposer qu'une peinture qui nous arrive de 1828 ou 30 soit dans un état parfaitement lisse et net et neuf, comme on peut voir les peintures actuelles. Donc il faut toujours laisser un peu de flottement, pas faire trop neuf, quoi. Sauf évidemment tout ce qui concerne les filets qui ont été refaits. Où est ma flèche? Les petits filets qui ont été refaits, ça disparaît. Pour encadrer donc les motifs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ben là, on avait un bel exemple de fissure dans nos deux panneaux de chaque côté de la cheminée. Les voilà restaurés. Donc, ici, il y a le panneau final qui est en face de celui de la cheminée, sur lequel on a refait un décor. Entre la porte du placard et les motifs allégoriques, on a réinventé un panneau de façon à rendre la pièce habitable et convenable. Parce que si on avait laissé une plâtre nue, puis on ne pouvait pas inventer un décor, ça n'aurait pas eu de sens. Donc on a fait ce qu'on appelle une harmonisation. Alors voilà notre panneau fini, qui donne sur le jardin avec l'oiseau, qui est réhabilité. On aperçoit à droite un autre panneau qui est, on va appeler ça un trumeau aussi, avec son petit oiseau et sa fontaine, tout à fait en haut. Est-ce que j'ai d'autres photos? Bon, voilà, c'est avant-après, la muse de la musique. Ici, c'est avant-après pour ce qui concerne la muse de la danse. Et on constate qu'en haut, il y avait beaucoup au départ aussi de plâtras, de surplus d'enduit qu'il a fallu dégager pour retrouver les petites ornementations. Alors, on en parlait tout à l'heure, on a sur ces deux exemples-là, on voit qu'ici, il y a des rebouchages. On va appeler ça des masticages. Ça peut être un nom un peu particulier. On va mastiquer les lacunes. Ce sont des petits trous qui avaient été faits par c'est ce qu'on appelle des interventions involontaires, des dégradations involontaires humaines. Certainement que quand on a tapissé, on a dû mettre des coups d'instruments, des coups d'outils, et on s'est retrouvé avec des panneaux qui étaient un petit peu endommagés. Alors, ce qu'on fait, on a été intervenu comme sur un tableau. On a utilisé du meudon stuc ou un stucco qui est fait à base de blanc de meudon. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, ça va être. Il y a en principe de la poudre de marbre, du blanc de meudon et une résine acrylique. Tout ceci étant réversible aussi. Si un jour, dans 20 ans, s'il y a une mode qui veut qu'on refasse des trous dans les panneaux antiques, on peut très bien enlever nos. Parce que le souci, c'était quand même de faire des retouches, des repiques sur les endroits où il y avait des lacunes de peinture, des manques de peinture. J'ai un petit mot à dire quand même sur ces petites danseuses-là, c'est que j'allais oublier, mais c'est important. Elles sont faites à partir de typons, on va appeler ça, je ne sais plus le nom, l'échappe, le peintre arrive avec un grand carton à dessin. Il ouvre son carton à dessin, il montre les modèles à sa cliente et ils conviennent d'un décor ou autre. Donc après, on va poser un calque sur la surface. La surface est déjà enduite, les fonds sont prêts. C'est pas comme la fresque, c'est assez sec. Les fonds sont secs, c'était peint à la céruse. Donc la céruse, c'est une peinture assez liquide, hein, de la même consistance que nos peintures actuelles, sauf qu'elle contenait du plomb. Et donc maintenant, c'est interdit à l'utilisation. Parce que dangereux, on sait pourquoi. Ça entraîne le saturnisme, on a arrêté de l'utiliser pour cette raison-là. Mais, donc nos fonds, très bien, sont faits. Il arrive avec son calque, et qui est percé de petits trous. C'est un poncif. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Et avec une petite poupée remplie de charbon de bois, il va faire comme pour la fraise, qui va tapoter tout le long des petits trous. Et on va avoir le motif apparaître. Hein, tu vois. Et ce motif sera peint après à main levée. On le sait parce que j'ai pas de photo de presse, c'est dommage, mais on a retrouvé des petits pointillés justement et qui attestent de cette technique-là. Donc je ne sais pas combien de temps ils mettaient pour faire cette chose-là, mais enfin c'était quand même assez. Ça allait vite, ils avaient beaucoup l'habitude. Voilà pour ce qui est de notre panneau de musique et danse. Bon, mais là aussi il y a un petit ornement qui a été refait avec des. Comment j'appelle ça? C'est un pochoir. Les filets rouges ont également été retendus. Ils avaient disparu. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de nos petites natures mortes qui sont dans les registres hauts, en haut des panneaux, qui ornent les hauts de panneaux. Alors voilà l'état dans lequel ils se trouvaient, hein, très très enfouis sous une couche d'enduit. Voilà, des petites scènes charmantes des fruits, des céramiques. Et là, c'est ce qu'on a restitué après avoir enlevé ces fameux gros tuyaux là, dans le bas des murs. Et on retrouve nos arabesques, nos grotesques. Hein, la feuille d'acanthe, c'est un motif qui est très très utilisé lorsqu'on voit la peinture décorative de cette époque et qui vient de l'Antiquité. Bon, je vais un peu à l'envers, mais effectivement, on retrouve nos photos avec nos saignées là. C'était pas très grave dans la mesure où on avait des repas. Il fallait conserver ici les très jolis les joncs, qu'on appelle. Ce sont des ornements qui sont de chaque côté des panneaux, qui viennent fermer le panneau. Et puis en haut, et naturellement, il y avait l'oiseau que vous avez vu tout à l'heure qui était endommagé et qui était restitué. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour de la question de la restauration de mes lunettes. Alors, ces peintures, donc, comme je le disais au départ, elles ont été, suite à la restauration, elles ont été inscrites à l'inventaire des monuments historiques, faisant un ensemble avec le bâti lui-même. C'est un très joli ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux essayer de répondre?
Ces peintures ont été découvertes par un terme.
Dans les intérieurs nantais, bonne question. On a retrouvé aussi des peintures en 2002, je crois, chez une personne qui ne souhaite pas faire connaître ça ni faire de publicité autour, qui sont des décors un petit peu plus récents, de 1850-1860. C'était un riche industriel, c'est Rue Mercœur, qui occupait cet appartement. Et qu'il a fait orner avec des panneaux floraux, très très jolis, mais qui s'éloignent un petit peu du grotesque. On arrive à la fin du siècle, enfin, deuxième moitié du 19e, mais c'est plus tout à fait les mêmes motifs. Et par contre, il reprend le motif du médaillon, et dans les quatre coins, sur les quatre murs de son salon, il fait faire le portrait de ses filles. Il a attesté qu'il avait fait faire le portrait de ses filles. Il y avait quatre filles, donc on a profité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, c'est ça. Oui. Mais là, j'étais aux journées du patrimoine et j'ai pas pu aller visiter. Oui, il y a eu des petits motifs qui ont été retrouvés dans les rues. Rue Santerre, Il y a aussi sur Nantes, c'est tout ce que je connais. C'est tout ce ce que je connais. Alors, dans l'immeuble, là, 1 place Mélinette, dans l'entrée, c'était couvert de prêches grises, de fauna. Tout était orné dans l'entrée. Et puis, au premier étage, il y avait un appartement qui. Là où la baignoire avait fui, justement, il y avait aussi des décors en soubassement, en marbre, en faux marbre. Mais ça n'a pas été conservé. Parce qu'il découvert un peu tard, ça ne faisait pas partie des devis. Là, c'était très très important comme découverte. Donc, on a sauvegardé. En revanche, après tout ce qui était faux marbre, j'avais insisté pour que ce soit réhabilité. Sans succès. À Nantes, il y a pas mal de peintures. Notre-Dame de Beauport, c'est entièrement orné, les plafonds sont entièrement ornés, avec les intrados, les voûtes comportent des peintures du 19e. Un motif végétaux aussi, je me souviens. Mais dans les demeures privées, je ne vois pas, je n'ai pas d'autres exemples. C'est une excellente question. C'est l'histoire de la patine, hein, qu'on doit respecter ou pas. Alors, comme sur un des panneaux, comme je disais tout à l'heure, on a fait beaucoup de salpêtre, on a décidé de mettre un niveau, ce qui s'appelle. C'est-à-dire qu'on a refait, étant donné qu'on a refait le fond avec les échantillons qu'on avait, par exemple, dans cette zone-là, on avait beaucoup d'informations, puisqu'on avait à peu près notre panneau de serreuse qui était avec un nuancier, on pouvait très bien relever la teinte locale. Donc pour des raisons de à la fois rendre le salon habitable, correct, et mettre les peintures, les motifs ornementaux en valeur, on était obligé. On ne pouvait pas faire autrement que de faire un repeint. Dans ce cas-là, qui dit repeint pour tous les panneaux qui ont été concernés par ces dégradations. Donc, il faut retrouver ce qu'on appelle l'harmonisation. Et dans la mesure où on fait des repeints aussi, on fait des peintures nouvelles, alors sur les panneaux qui étaient en plâtre, où il n'y avait pas de décor, là, la patine ne se justifie pas. On n'a pas un vieillissement qui serait une invention pure à rapporter. Au mieux garder l'authenticité, comme je vous disais, et éviter de. Dans les petits motifs comme ça, on les voyait de plus près tout à l'heure. Voilà, dans ces petits motifs-là, il faut laisser des à peu près, il faut laisser des choses qui ne sont pas, justement, et qui donnent l'aspect, enfin, qui conservent, je dirais, leur aspect d'origine. Très très peu, on n'intervient pas de faire comme des forcenés, quoi, hein. De façon trop directive et trop. Ça porte un nom aussi, mais.
C'est l'émotion, hein, j'arrive pas à trouver les mots.
De façon trop interventionniste, voilà. Il faut éviter de jouer avec toutes ces patines, là, parce qu'on se. De quel droit est-ce que ce serait plus authentique que. Non. Sur les tableaux, c'est pareil, hein. Voilà. D'autres questions ?
Je voulais savoir si vous avez effectué de l'intégration
culturelle, si vous avez effectivement, ça c'est une bonne question aussi, parce qu'il y a très peu de produits en matière de vernis. On en a trouvé un, je dirais après, qui soit réversible, toujours le problème de la réversibilité. Et puis, ça rejoint ce que madame disait, est-ce que ça ne va pas se patiner avec le temps, les peintures. On a trouvé un vernis qu'on avait utilisé chez la première dame dont je vous parlais, qui veut taire son nom, qui est un vernis anti-graffiti. C'est le seul qui soit réversible. En revanche, peut-être que dans 10 ans, il sera un petit peu jauni, on ne sait pas, c'est un petit peu embêtant. Nous, pour ce cas concret, on a préféré laisser dans l'état. Sans intervention de protection. Oui, merci.
Contre la salpêtre, vous avez fait
de l'eau distillée, tout simplement. Avec du papier japon, on taille dans du papier japon qu'on peut trouver chez les charmants commerçants de Nantes, là, qu'on connaît bien, qui ça se finit par Luc. On trouve du papier japon et on coupe là-dedans des morceaux qui font 20 sur 20. On les applique sur la surface à traiter et on asperge de l'eau distillée. Et l'opération se fait toute seule. Les sels minéraux remontent dans les papiers. Et il faut imprégner pendant, il faut refaire l'opération pendant 4-5 jours quand même. On change le papier. Papier japon, je l'ai même fait avec des Kleenex, je ne ferai pas de papier japon, ça marche très bien. Du moment que le sel remonte, étant donné que l'humidité va aller chercher l'humidité de surface, qu'on garde sur la compresse, c'est une pose de compresse en quelque sorte, va aller chercher dans les fonds tous les sels qui sont des vilains cocos et qui nous embêtent beaucoup. Voilà. Donc ça va remonter en surface, ça va être absorbé par le papier, et en principe, ça se passe bien. Parce qu'il y a la couche picturale. Parfois, il arrive qu'en plus du salpêtre, il y ait un décollement de la couche picturale. Là, c'est beaucoup plus problématique parce qu'il faut intervenir avec de la silice et puis faire à la seringue des injections pour essayer de contenir ce décollement. Il faut à tout prix, de toute façon. Alors, ce sont des résines acryliques. Attention, hein, ça se dilue pas n'importe comment. Il y a, j'utilise, pour ne pas citer le nom, Plextol, à 5 ou 10%, ou AC33, acryl 33. Mais bon, j'en connais d'autres. C'est ceux-là qui marchent le mieux. Hein. Alors, quand on fait des injections pour reconsolider un mur, c'est plutôt dans les silicates, c'est plutôt du BLMA. Très dilué à 80%. Voilà, c'est tout ce que je sais hein, de ce problème-là. Ce Plextol ou cet acryl 33, on l'utilise aussi pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, les petits produits, les petits mastiques pour faire le stucco. Ça marche très bien. Bonne question aussi. Ce sont les artisans qui nous ont précédés, c'était les peintres notamment, qui étaient chargés de refaire les peintures d'huisserie et les panneaux qui étaient dans les panneaux de la pièce. Ils avaient aussi les plafonds à faire, parce que la liaison des murs avec les plafonds se fait avec un réseau de corniches sur lesquelles sont appliqués des modillons, vous savez, des petits modillons qui reviennent. Et sur les modillons, il y avait des traces d'or déjà, des traces de vieil or. Donc ils se sont posé un peu de questions, puis en soulevant les panneaux, c'est l'épaisseur de couche, de papier et de toile. Ils ont vu qu'il y avait des peintures quand même. Donc ils ont, l'architecte s'en est aperçu, qui était M. Perroin. Il y avait Château du Patrimoine qui était à l'époque Potiron, Antoine Potiron. Et donc ils ont tout de suite prévenu la DRAC. Donc ça s'est fait très vite, parce qu'on sortait du chantier de Ligny et puis tout de suite on brillait dessus sur ce chantier-là, parce que c'était en fait, ils avaient déjà un planning, ils avaient déjà des dates de livraison. Et comme ça s'est trouvé, c'est découvert en fin de chantier, parce que les peintres sont toujours ceux qui interviennent à la fin des chantiers, nous on avait très peu de temps. Donc à 4, on s'est mis et ça a été rondement mené. Chacun avec sa spécialité. Il y en a qui faisaient les filets, pendant que l'autre consolidait les parois. Enfin, voilà.
Et alors, sur une opération comme ça, quand on découvre des peintures aussi importantes, on avait prévu la drague, j'imagine qu'il y aurait une partie qui est en charge.
Alors, très bonne suggestion aussi. Effectivement, comme l'immeuble était déjà inscrit, pour ce qui concerne sa façade et sa toiture, il y avait donc déjà des subventions qui avaient été allouées pour ça. Et en urgence, pour ce chantier-là, ils ont débloqué, je crois que c'est de l'ordre de 30% des subsides de l'État, pour conserver ces peintures-là. Ils sont un exemple rare à Nantes quand même, je veux dire. Dans cet état de conservation, je veux dire. Il y en avait peut-être d'autres, certainement beaucoup d'autres. En revanche, bon, est-ce qu'ils ont été enlevés ou je ne sais pas, détruits? Non, parce que chez Rue Mercœur, ils n'étaient pas inscrits. Elle ne voulait pas en entendre parler. Donc. Oui. Oui, oui. Les chapelles, les églises. Voilà. Non, c'est pas indiscret, hein. Je suis là pour faire ma pub aussi. De la publicité sur ce métier qui n'est pas très bien connu d'ailleurs. Il y a des spécialistes, il y a les peintures de la peinture murale, il y a ceux qui s'occupent de la statuaire, c'est encore un autre métier, et ceux qui s'occupent du dégagement très difficile, tel que les dégagements qu'on fait sur des badigeons sur la pierre, qui sont extrêmement difficiles à enlever au scalpel, c'est-à-dire dégagement mécanique, et qui sont réalisés avec des micro-sablages. Ça, c'est un métier aussi, parce qu'il ne faut pas intervenir trop fortement, trop violemment sur les pierres. Parfois sont malades. Il y a les spécialistes d'un peu tout, mais il y a les spécialistes du bois polychrome qui travaillent beaucoup sur les hôtels, sur les statues polychromes. Voilà, moi c'est surtout la peinture murale.
Voilà. Quel genre d'études faut-il faire pour cela?
Oui, il y a des écoles. Il y a pas mal d'écoles en France, il y en a une à Marseille, et une école du patrimoine, il y a l'INP, l'Institut National du Patrimoine. Les autres, je ne les connais pas beaucoup parce que c'est pas mon circuit du tout. Moi, j'étais inscrite à l'Urban, à Nantes, à l'école des Beaux-Arts, et puis j'ai eu un prof qui m'a mis sur les rails, quoi, et qui m'a emmenée sur les chantiers, et qui m'a appris le métier. Par ça, après, j'ai été obligée de me spécialiser et d'apprendre toute seule. Parce que les écoles, vous savez, ils vous acceptent à partir jusqu'à un certain âge, mais après c'est terminé. Quand vous avez décidé de refaire un apprentissage, c'est pas toujours très facile. Et pour continuer à répondre à votre question, parce qu'il y a un côté quand même, vous vous en doutez, qui est très lié à la peinture plasticienne, du moins, enfin, il faut quand même avoir un peu le sens de ça, de reproduire ce qu'on voit. Et une formation en peinture et en dessin. Savoir ce qu'on met sur les murs aussi. Toutes les recettes ne sont pas comme ça livrées, il faut beaucoup s'interroger. Voilà. Enfin, on ne trouve pas de la peinture murale non plus sous le pied d'un cheval tous les jours. C'est quelque chose qui est quand même. Donc à côté, il m'est arrivé de faire des chantiers de décoration pure. Là, je ne peux pas me permettre. Si on me propose quelque chose, je vais trouver des solutions pour accepter. Parce que... Oui, il y a toujours des solutions. Oui, il y a toujours des solutions. J'ai l'exemple en ce moment d'une église dans le nord de la Mayenne, dans laquelle il y a un réseau de fausses pierres, vous savez, pierres qui sont dessinées. Et au milieu de chaque pierre, il y a un petit motif en étoile. Et dans les hauteurs, il y a une litre à écusson, vous savez, c'est des espèces de bandes noires avec des écussons des seigneurs locaux qui ont fait des dons à l'église et qui avait droit de banc. Et ça, c'est très très abîmé parce qu'il a plu dans l'église pendant au moins 5-6 ans avant que la toiture ne soit refaite. Il y a une vingtaine d'années de ça. Donc là, il y a énormément de dégradation. Et puis surtout, les murs sont les hauts de murs qui sont très dégradés. Parce que c'est au bord de la sablière, vous savez, cette poutre en bois qui retient la toiture. Il y a des trous, il y en a un qui fait, enfin j'appelle ça des trous, ce sont des lacunes, qui fait, il y en a une qui fait au moins 27 mètres carrés, et puis on a calculé, et on voit la pierre, si on voit l'appareil de pierre, mais elle est vraie, là, du coup. Hein. Donc là, il y a un ragréage, etc. Ça va être très compliqué parce qu'il faut échafauder. Et en dessous, il y a des bancs d'église qui sont fixes. Donc on ne peut pas mettre un échafaudage collant. Ça va être une prise de tête assez considérable. Mais bon, je vais quand même essayer d'y aller et de réparer ça parce que ça vaut le coup, c'est joli. Enfin bon, puis même, elle est inscrite, cette église-là. Et puis, toujours embêtant d'avoir des problèmes d'humidité dans une église. Puis il faut conserver la chose la plus importante que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est qu'effectivement il y a la notion du patrimoine. Enfin, vous êtes très concerné à notre naissance, que le premier souci c'est de transmettre. Donc tout ce qui existe et qu'on trouve et qu'on peut sauvegarder, qu'on peut conserver, même si c'est pas restauré, ça sera conservé. C'est un bienfait quoi, pour les générations suivantes. C'est ce qui motive un peu aussi. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'autres questions?
Il y a Marie-Vanne, c'est sur le terme de transmettre que j'aimerais terminer et te remercier. J'aimerais préciser deux choses, rappeler que c'est ta première conférence, c'est la première fois que tu parles de ton travail et vraiment je te remercie chaleureusement parce que Marie-Vonne fait partie de la charte de qualité de notre naissance. Tu t'engages effectivement sur la qualité du travail et des restaurations, mais tu t'engages aussi, et c'est parfois difficile, mais tu t'engages sur la transmission des savoir-faire. Tu nous fais partager ton expérience, et c'était l'objet de cette conférence. Et on peut parfois être très bon devant sa toile, devant son mur, et c'est parfois plus difficile d'expliquer son travail de façon, théorique. Et donc je sais que c'est un autre exercice et je sais combien cet exercice est difficile, mais je trouve que merci encore de nous avoir permis de découvrir ton métier.
Merci beaucoup.
Et justement sur le volet transmission, sachez que la lettre de notre naissance est sous presse et peut-être même sous pli d'ailleurs, en tout cas elle ne va pas tarder à arriver, et dans la double page sur la transmission des savoir-faire, la double page de ce prochain numéro est consacrée justement à une synthèse de la conférence de ce soir, donc vous pourrez retrouver l'exemple de la place Mélinette grâce à Marie-Vonne Bessière. Merci encore.
Merci.